pour la Coalition Avenir Québec. Et on nous propose une vedette dans Sherbrooke pour tenter de ravir l'Estrie au grand complet et ainsi mettre la main sur à peu près l'entièreté de l'Est du Québec, à part Rimouski, peut-être les îles de la Madeleine et Sherbrooke, dernier bastion qui ne serait pas occupé par la Coalition Avenir Québec si des élections avaient lieu aujourd'hui même, puisque pour l'instant, Christine Labrie est toujours en tête. Évidemment, les sondages, les derniers, ont été réalisés avant l'annonce de cette candidate vedette de LCN, ancienne mairesse de Longueuil et qui possède un chalet dans le coin de l'Estrie en général, semble-t-il. Ce qui fait en sorte que Caroline Saint-Hilaire a été désignée pour être candidate comme étant la prochaine députée de Sherbrooke. Et oui, une étrange venue d'ailleurs se propose pour être la candidate de Sherbrooke. Ça a fonctionné par le passé, on se mentira pas. Luc Fortin, dont la conjointe venait de Sherbrooke, avait réussi son pari lorsqu'il avait été élu député de libéral tout juste avant Christine, sous Philippe Couillard. Et comme elle le disait dans son point de presse, « J'ai développé pour l'Estrie un véritable lien d'amour. C'est ici que j'ai choisi de vivre. J'ai envie que mon expérience politique serve à dynamiser Sherbrooke. Amenons Sherbrooke à la table des décisions. Traitons-la une fois pour toutes en reine », a souligné Caroline Saint-Hilaire pendant son discours. Parce que oui, la ville reine de l'Estrie doit être encore plus la reine de l'Estrie pour Caroline Saint-Hilaire. Parce que oui, elle était mairesse d'une ville dans la Montérégie. Mais elle aimait donc ça, voir les beaux décors lorsqu'elle descendait à son chalet en Estrie. Parce qu'évidemment, c'était impossible d'avoir un chalet dans la ville de Sherbrooke. Donc elle devait probablement avoir un chalet à Magog. Et elle se présente quand même dans les circonscriptions de Sherbrooke et non dans Bromissisquoi. Oui! Traitons-la en reine, Sherbrooke. François Legault, qui était évidemment trop heureux d'être à côté de Caroline Saint-Hilaire sur le même podium. Je me plais. C'est une grande ville du Québec, la sixième la plus grande. Et pour avoir une députée à la hauteur de Sherbrooke, ça nous prendrait une candidate exceptionnelle. Toujours Caroline, je me plais à projeter la circonscription au sein d'un gouvernement dirigé par M. Legault et avec la force et le dynamisme du caucus régional de l'Estrie de la Coalition. Pouvez-vous imaginer un instant l'élan que ça donnerait à Sherbrooke? Moi, ça me donne plein d'idées. Rien de moins. Parce qu'en ce moment, Sherbrooke n'est pas représenté dignement à l'Assemblée nationale parce que ce n'est pas la CAQ qui règne en roi et maître sur l'Estrie. Parce que oui, Sherbrooke ose donner du pouvoir à quelqu'un d'autre que la CAQ. Donc maintenant que Christine Labrie est là, ben Sherbrooke va être important à cette heure. Parce que ça ne l'était pas avant, rien de moins. Christine Labrie est là pour révolutionner la circonscription au grand complet. Ah, Seigneur. Je veux entendre la population sur les enjeux qui vont définir le Sherbrooke de demain et je veux qu'on travaille à améliorer la qualité de vie de tous les citoyens et à l'essor optimal de Sherbrooke dans toutes les sphères d'activité. Il s'agit de la seule circonscription, comme le rappelle si bien Radio Canada, qui n'est pas détenue par la CAQ en Estrie. Le premier ministre estime que Caroline Saint-Hilaire a ce qu'il faut pour déloger la députée sortante. Elle ne veut pas gérer la continuité. Elle vient pour changer les choses. J'ai besoin de Caroline à Québec. Parce que oui, 99 députés ou 100 députés, là, voilà la grosse différence. Et là là. Donc voilà, une candidate parachutée dans Sherbrooke pour tenter de faire barrage à Christine Labrie. Parce qu'au même moment, dans une autre partie de la ville, on y retrouvait Madame Labrie, qui brigue un deuxième mandat dans Sherbrooke. Peu connue, peut-être je me trompe, mais peu connue au moment où elle a été élue. Elle a fait sa marque depuis. Gabriel Nadeau était là, Manon Massé était là pour représenter la candidate aux prochaines élections, toujours dans la circonscription de Sherbrooke, aux côtés de Mélissa Généreux, de la docteure Mélissa Généreux qui se présente dans Saint-François et de Philippe Pagé qui se présente dans Richemont, donc les candidats de l'Estrie pour Québec solidaire. Les gens de l'Estrie ne veulent pas plus de CAQ. Ils veulent avoir une députée qui a les deux pieds bien ancrés dans sa région, qui a déjà fait ses preuves. D'ailleurs, les Sherbrookois et Sherbrookoises ont vu depuis 4 ans ça fait quoi d'avoir une députée solidaire dans leur circonscription? A fait valoir Manon Massé. Donc, il y aura un petit suspense, malgré tout, dans Sherbrooke lors de la soirée électorale, puisque, bon, évidemment, la députée sortante va tenter de se faire réélire. Pour l'instant, comme je le disais, elle serait en bonne position. Ne serait-ce que d'être de la région, normalement, aide beaucoup à faire remporter. Si on se fie aux dernières intentions de sondage, c'est extrêmement serré, 33 à 32 pour la CAQ, oui, 33-32, donc il y a eu un petit fond d'appui pour Christine Labrie. C'est serré. 33-32, c'est dans la marge d'erreur, hein? Plus ou moins 8% après ça, donc c'est encore jouable en espérant que Mme Labrie survive, parce que effectivement, ça prend une petite opposition quand même, même si en ce moment c'est assez peu probable que François commette assez d'erreurs pour perdre les élections rendu à l'automne. Présentement, Rouyn-Noranda, Témiscamingue, ça devient complètement impossible pour Émilie Sterrien-Lessard de remporter sa propre circonscription. Elle est en danger, même elle, en ce moment, les appuis pour le parti de la CAQ est deux fois plus élevé, donc c'est probablement une perte qui va être réalisée. 2% de chance de l'emporter, donc c'est assez faible. Dans Jean Lesage, ici à Québec, Sol est en difficulté. Ça devrait être la CAQ 35 à 31, donc c'est serré ici aussi à Québec. Sinon, Sherbrooke, c'était jusqu'à tout récemment Christine qui l'emportait, mais ça va être serré. Vincent Marissal serait en difficulté dans Rosemont. La CAQ a fait une petite percée, donc dépendamment de qui se présentera contre lui, ça pourrait être une perte pour Québec solidaire. Sinon, ce qui est assuré, c'est Hochelaga, Laurier-Dorion, Sainte-Marie-Saint-Jacques, Gouin-Mercier. Donc, on reste sur l'île de Montréal si on se fie aux prochaines projections. Et la circonscription de Taschereau, également à Québec, devrait être, malgré tout, donnée à Québec solidaire, puisque c'est une probabilité qui se peut. À plus ou moins 9%, c'est Québec solidaire qui a l'avance dans Taschereau. Sinon, c'est la Coalition Avenir Québec qui est en deuxième position. D'autres luttes qui pourraient être serrées. Saint-Henri-Saint-Anne, la circonscription de Dominique Anglade, qui pourrait passer aux mains de Québec solidaire, mais c'est également serré avec la Coalition Avenir Québec. Donc, c'est une lutte à trois qui se dessine dans la circonscription de la chef libérale, qui pourrait elle-même perdre son siège aux élections. Elle va perdre ses élections, mais elle pourrait même perdre son siège. Donc, ça serait effectivement la fin de Dominique Anglade, complètement de l'échiquier politique, du moins pour la prochaine élection. Sinon, dans Verdun, ça pourrait être serré en ce moment entre, à nouveau, la CAQ, le Parti libéral et Québec solidaire. C'est serré 30-24-23, respectivement. Donc, on pourrait peut-être voir, en fait, on voit qu'Isabelle Melançon serait défaite, mais est-ce qu'elle ne se représente pas? J'ai-tu halluciné ça? Parce qu'ils ont à peu près tous démissionné, ou en tout cas ne se représentent à peu près tous pas. Techniquement, Isabelle Melançon serait en selle pour la prochaine élection. Elle serait dans les quelques-unes qui restent au parti. Pour l'instant, ce n'est pas gagné, ça c'est clair. Et sinon, ou une autre petite circonscription, il pourrait y avoir une petite lutte, mais en tout cas très petite. C'est dans Bourget. Sauf erreur, c'est également... C'est dans l'ouest de Montréal. C'est ça, la région de Montréal. Voilà. Où il pourrait y avoir un gain de la CAQ, mais c'est un petit peu serré avec Québec solidaire, mais pas beaucoup. Ah, la circonscription de Paul Saint-Pierre, Plamondon. Voilà. Et en ce moment, c'est vrai, c'est là où Paul Saint-Pierre, Plamondon, veut se présenter. Et en ce moment, il finirait cinquième. C'est la pire circonscription que... Ou en tout cas, une des pires circonscriptions. Non, c'est conservateur. Mon erreur qui est cinquième. En ce moment, Paul Saint-Pierre finirait troisième. Je me suis trompé de teinte de bleu. Parce que là, en ce moment, on a les bleus pâles, les bleus moyens et les bleus foncés. On n'est pas original sur les couleurs, on va se dire ça comme ça. PQ qui serait troisième derrière Québec solidaire dans Bourget. Donc, Paul Saint-Pierre est assuré de ne pas remporter sa circonscription pour avoir choisi Montréal. Pour on ne sait pas trop quelle raison. En fait, je l'ai ici. Est-ce que traditionnellement, ça votait PQ? Traditionnellement, ça votait PQ. C'était l'ancienne circonscription de Diane Lemieux, de Maca Coteau. Voilà, 2008 à 2018. C'était la circonscription de Maca. Où Richard Campeau de la Coalition Avenir Québec l'avait battu à la dernière élection d'à peine 500 voix. Donc, Maca Coteau qui s'était fait sortir par la vague de la Coalition Avenir. 500 votes, c'est quand même très peu. Donc, c'est probablement à cause de ça qu'on s'était dit que le PQ avait peut-être une petite chance de revenir. Mais en ce moment, ils sont troisième derrière Québec solidaire. Je m'amuse à le rappeler. Donc, voilà pour la circonscription qui était un château fort péquiste, puisque depuis 1994 jusqu'à 2018, c'était... Le PQ qui était en selle jusqu'à ce qu'à 2018, voilà, la coalition Avenir Québec prenne la place. Donc, la campagne électorale va s'amorcer dans les prochaines semaines, évidemment. Quand je dis les prochaines semaines, il y a quand même un petit jeu. Là, le Parlement va être sur le bord de finir ses sessions, notamment le projet de loi sur l'aide médicale à mourir, pour faire d'un très mauvais jeu de mots, mais qu'un journal l'a publié, meurt au feuilleton, puisque bon, on ne s'entendait pas sur certaines dispositions. Donc, finalement, le projet ne se verra pas adopté avant la fin de la session parlementaire. C'est notamment aussi pour Véronique Yvon qu'elle ne le verra pas en tant que députée. Son projet qu'elle avait chapeauté au début, qui ne sera pas adopté pendant qu'elle est là. Donc, ce sera le prochain gouvernement qui va pouvoir décider de la chose. Il y avait quelques petits points dans le projet de loi il n'y avait pas d'entente commune entre tous les partis qui faisaient en sorte que le projet devait être reporté après les élections. Donc, pas de consensus pour qu'il soit adopté en dedans de deux semaines, parce que, bon, je pense qu'on termine, sauf erreur, juste avant la fête du travail. Pas la fête du travail, mais la fête du travail. La fête du Québec, la fête nationale. Donc, ce qui fait en sorte que, bon, ce projet de loi-là ne fonctionnera pas, malheureusement. Donc, les élections s'en viennent. Comme je le disais, il va y avoir quelques luttes un peu serrées. Les chances que ça fasse comme en Ontario et qu'à 20h18, on prévoit un gouvernement majoritaire de Doug Ford, mon 5$, je le mettrais à 20h10, heure du Québec, ou 21h10, je pense que les boîtes ferment à 21h, sauf erreur, mais les émissions, elles, commencent à 7h30, fait que c'est beaucoup de blabla avant que les votes commencent à se faire, donc probablement 10 minutes, c'est mon pari, Et François Legault est nommé majoritaire avec la CAQ pour la prochaine élection. Ça sera même pas serré. Donc, on s'arrête quelques instants. Au retour, on parle de l'actualité de cette semaine, ici même, sur les ondes de Chilis 94.3 et de CFAQ 88.3. La nouveauté. Oh là là, je mue en même temps. La nouveauté de Simon Kearney en musique avec Jean Leloup, ici même à Chilis et à CFAQ. Service, ça vient tout juste de sortir ce matin lors de la diffusion de l'émission originale. En fait, c'est survenu à quelques minutes d'intervalle puisque officiellement l'avocat de Carl Giroir, celui qui a provoqué le chaos total à l'Halloween, il y a 2 ans. Porte en appel le verdict qui a été rendu contre lui, donc des meurtres, ben reconnu coupable des meurtres de François Duchesne, 56 ans, Suzanne Clermont, 61 ans. La dépôt d'appel est survenue environ une demi-heure avant qu'on connaisse sa sentence, puisque la demande de contestation judiciaire a été déposée le matin même. La partie de Carl Giroir remet en question 2 directives adressées au jury, dont celle concernant l'usage qu'il pouvait faire ou ne pas faire de l'interrogatoire de son client par les policiers, parce que c'était eux plaidaient que c'était un interrogatoire inutilement long, de l'avoir gardé pendant 5 heures, 6 heures d'interrogatoire parce que lui disait rien en plus, donc pourquoi l'avoir retenu aussi longtemps quand il n'en avait pas parlé. Il avait été également reconnu coupable de 5 tentatives de meurtre après s'en être pris à des passants le soir du 31 octobre 2020. La notion de responsabilité criminelle avait été au centre de son procès. Donc, les uns disaient qu'il était fou, l'autre disait qu'il était pleinement conscient de ce qu'il faisait. Évidemment, les jurés ont tranché dans la partie qu'il savait ce qu'il faisait. Ce qui fait en sorte que, c'est comme je le disais, une demi-heure plus tard, donc vers 11 heures, Carl Girouard était officiellement condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 2045. Le juge Richard Garnier a d'abord rappelé la gravité et les répercussions des actes commis par Girouard avant de rendre sa décision. Auparavant, des proches des victimes ont été invités à prendre la parole car Girouard n'a pas souhaité émettre de commentaires. L'homme de 26 ans a été déclaré criminellement responsable des meurtres. Il avait également, bon, fait 5 blessés, comme je le disais. La Cour suprême du Canada a récemment invalidé la disposition du code criminel qui rendait possible le cumul des périodes d'inéligibilité à une libération conditionnelle. Ce qui fait en sorte que Carl Girouard écope de la peine maximale, soit 25 ans, parce qu'on se souviendra que c'est drôle, ils mettent pas le lien pour parler de celui-là, mais c'était pour l'attentat à la mosquée. Alexandre Bissonnette avait été condamné à plus de 25 ans pour les meurtres commis, soit par nombre de personnes qu'il avait tuées. Disposition qui avait été mise en place par le gouvernement de Stephen Harper à l'époque, mais en invalidant cette disposition-là pour Alexandre Bissonnette, pour lui donner une chance, entre guillemets, de se réhabiliter lorsqu'il pourrait sortir de prison. En fait, faire une demande de libération conditionnelle après 25 ans. Donc là, à ce moment-là, il ne pouvait pas. Il fallait qu'attendre qu'il ait 99 ans, me semble, pour faire une première demande. Évidemment, ça faisait en sorte qu'il était en prison à vie pour vrai. Dans son cas, à lui, ce qui faisait que ça invalidait tous les dispositions qui avaient été mises à ce moment-là. Donc, depuis 2011, tous les procès qui avaient été jugés au Canada et qui avaient été jugés à plus de 25 ans devenaient caducs. Donc, on ramenait tout le monde à 25 ans, ce qui faisait en sorte que certaines tueries, notamment ce qui s'était passé du côté de la Nouvelle-Écosse, non, pas la Nouvelle-Écosse, en tout cas, il y en avait une autre dans les Maritimes, que lui-même avait été à 30-35 ans de prison. Ben, il était ramené à 25 lui aussi parce que bon, la disposition était invalidée au grand complet, donc jurisprudence qui était faite là-dessus. Et ce qui fait en sorte également que Carl Girouard ne peut pas cumuler les peines d'emprisonnement malgré malgré qu'il y ait 2 décès et qu'il y ait 5 blessés pour l'Halloween 2020. Donc quand même de bonnes répercussions qui vont se faire là-dessus. Bon, comme je le disais, la disposition du code criminel dans le code Bissonnette. C'est ça, le juge réécrit une disposition du code criminel puisqu'Alexandre Bissonnette était pour 40 ans derrière les barreaux, donc en 2057. Où j'ai pris mon 99 ans, ça devait être pour quelqu'un d'autre. Oui, c'était quelqu'un d'autre. Je pensais à ma personne des Maritimes dont j'oublie malheureusement le calcul. Soit espérance de vie. Bon, c'est ça, qui dépasse l'espérance de vie. La question était au travers de tout ça, de qu'est-ce qui allait se passer. Donc, plus de 25 ans, 6 chefs d'accusation dans le cas d'Alexandre Bissonnette. Donc, voilà. Donc, ce qui l'a amené en 2057 pour 40 ans pour qu'il soit incarcéré depuis 2017. Donc, c'est le 40 ans qui posait un peu un problème. Et bon, la décision a été rendue récemment pour revenir sur ce qui a été fait, là-dessus. On s'arrête à nouveau quelques instants. On va aller entendre Lisandre, tiens, avec Sans oublier, au retour. On continue à parler de l'actualité de la semaine, ici même sur les ondes du 94.3 à Chiz et de CFA 88.3 à Sherbrooke.
Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Tous les lundis,
sur les ondes de Chiz,
à 13h, c'est Écoute locale, la playlist.
Ben non, les entrevues.
Mais non, c'est une playlist.
On s'est dit 13h, les entrevues.
Mais oui, mais c'est moi qui l'anime, là, je le sais, je monte ça,
saison,
là, je fais une sélection des artistes,
heures,
là, puis tout le monde qui...
Et fais-la donc tout seul dans l'émission.
Bon, OK. Un lundi sur deux, à 13h, je vous présente ma sélection des dernières sorties musicales de la Ville de Québec.
Un lundi sur deux, à 13h, je reçois un artiste de la scène locale de la Ville de Québec pour jaser de musique. Avec Guillaume Pepin,
Émilie Rioux, Écoute locale sur les ondes de Chiz 94.3. Bon, t'es-tu contente, là?
Oui.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute locale. Écoute Chiz 94.3.
Il était une fois l'histoire d'un homme qui a fait sortir des récifs de l'éthanol et les sédatifs. Une femme qui n'était pas moi. Les veines vidées sous la blessure du péché originel qu'elle avait soigné au cyanure. En échange, il promit d'être fidèle. Une foi pour l'écriture, deux fois devant l'éternel, trois fois jusqu'à la pourriture. Ce soir, comme à tous les soirs, je vais danser, tu vas me voir. La gorge pleine de romances païennes, j'aurai dans le cœur un trou béant. Je descendrai dans la foule noire, irréversible comme le hachoir. J'y chanterai mes sentences anciennes jusqu'à ce que se remplisse le néant. Tu l'accordes, exauce ma prière, qu'elle me porte comme un cercueil, qu'elle m'escorte tête première. Que diadème, veux-tu que je t'intronise héros? Je t'ai vu le dérober aux murennes. Tu dis que tu fis couler dans la chaux, palais plus vaste que l'Éden. Pour te parer des pluies diluviennes, vas-y, va la rejoindre dans son cachot. Si tu voyais comme c'est pour la neige, je sais, tu l'as vu 40 fois. Le ciel noir comme en Norvège, j'aimerais que tu vois ce que je vois. Souviens-toi de son caractère pêche, quand elle s'endormira sur toi. un secret lointain, tout recouvert de la vie durcie par la pluie.
Lydia Gabinski avec Depuis qu'on vient d'entendre sur les ondes de Chiz et de CFAQ. Quelques petites nouvelles pour poursuivre l'émission et c'est une bonne initiative, j'ai envie de dire, qu'on a appris hier, puisque les microbrasseries du Québec demandent au gouvernement d'imposer des quotas de vente de bière aux festivals financés avec de l'argent public. Mais pas avec n'importe quelle bière, avec des bières des régions où se produisent les festivals. Des quotas du genre soutient l'Association des microbrasseries du Québec permettraient d'accroître considérablement la visibilité des quelques 302 microbrasserie de la province. Donc, se sortir des mêmes trois marques pour offrir des bières locales, ce qui serait pas complètement fou non plus. L'association et ses membres réclament donc leur juste part du gâteau. C'est une industrie qui est présente dans toutes les régions du Québec, qui est croissante, qui est toujours fortement impliquée dans sa communauté, impliquée dans les circuits courts au niveau de l'économie. Ce sont des choses, supposément, que les gouvernements actuels veulent encourager et veulent développer. Nous, concrètement, sur le terrain, on ne le voit pas super bien. Ça, c'est une déclaration de Martin Parot, qui est président directeur général de la brasserie Grindel et président de l'AMDQ, soit l'Association des microbrasseries du Québec. Et bon, qui voilà, pense que l'imposition des quotas au festival permettra aux microbrasseries de rayonner, du moins avec une meilleure visibilité dans les festivals parce que les gens se déplacent. Cependant, bon, cette part du gâteau se fait attendre depuis un bon moment. L'imposition de quotas est une revendication de l'association vieille de plus de 10 ans. Donc, c'est un débat qui date pas d'hier. Ça avance lentement. On nous répète souvent que c'est compliqué. Je pense aussi qu'il y a un espèce de manque de volonté à quelque part. Effectivement, ce serait quoi pour un festival comme le Festival d'été d'inclure les différentes microbrasseries de la seule région immédiate de la ville de Québec? Parce qu'évidemment, si on élargit à capitale nationale, on s'en va jusque dans le Charlevoix. Ça va large, mais il y en a. T'sais, c'est pas ça qui manque. Vendre des produits de microbrasserie lors de ces événements tout en... de son côté, virgule, le Festival d'été de Québec rappelle vendre des produits de microbrasserie lors de ces événements tout en précisant que les grandes entreprises répondent déjà aux besoins de l'organisation. Parce qu'évidemment, oui, ils ont déjà des partenariats avec des brasseries plus grandes, mais celles-ci, évidemment, exigent à être les seules vendeurs sur les sites de ces festivals-là. Donc après ça, c'est un peu plus dur pour une petite microbrasserie de région de faire comme « Hey, j'aimerais moi aussi qu'on mette mes bières blondes aux côtés des gros fournisseurs. » Parce que les gros fournisseurs demandent l'exclusivité, règle générale, sinon ben ils donnent pas d'argent au festival. Fait que c'est un cercle vicieux ici où, parce que les plus gros veulent pas faire de place aux plus petits, avec une certaine raison aussi, parce que, en tout cas, ça fait quand même en sorte qu'à ce moment-là, ça devient un peu complexe d'avoir tout le monde autour de la même table, c'est sûr et certain, ou du moins autour du même bar, pour faire un beau lien. Nous avons la chance de pouvoir compter sur des partenaires d'envergure qui ont la capacité d'accommoder un très grand volume de ventes, tel qu'on peut le voir sur les plaines pendant les 11 jours du festival, selon la directrice du FEC et présidente directrice générale de Bleu Feu à Nudon. En même temps, tu demandes à tes microbrasseries de s'adapter, puis sûrement qu'ils vont être capables. Le regroupement des événements majeurs internationaux, le REMI, C'est cute! Le regroupement des événements majeurs internationaux, le REMI, estime pour sa part que les microbrasseries québécoises auraient de la difficulté à assumer les commandes importantes des festivals. Voilà! C'est le REMI, c'est REMI qui est pas fin! Puis qui dit que les microbrasseries seraient pas capables. Certains d'entre eux accueillent parfois plus de 100 000 personnes en une fin de semaine, comme c'est le cas pour Oceaga. Il faut être en mesure d'avoir un stock et de fournir autant que les foules peuvent l'exiger, affirme Martin Roy, président directeur général de REMI. Encore une fois, tu informes les microbrasseries que l'an prochain, ils devront fournir 100 000 personnes. Probablement qu'ils vont être capables de prévoir le coût si tu leur dis d'avance qu'ils vont être partenaires majeurs, tu sais. Je dis ça, je dis rien. Il faut aussi être en et croire que les différentes ententes d'exclusivité qui existent entre les festivals et fournisseurs rendent la tâche plus difficile aux microbrasseries. Voilà où ça peut bloquer, du moins dans un premier temps. Québec solidaire et la députée de Rouyn-Noranda, Témiscamingue, Émilie Desanteriers, on en parlait justement, abondent dans le sens de l'Association des microbrasseries. Selon eux, au moins un tiers des bières vendues dans les festivals financés publiquement devraient provenir d'une microbrasserie locale. Je ne trouve pas ça normal d'aller dans une Saint-Jean-Baptiste qu'on boive de la Corona ou de la Bud Light alors qu'on pourrait boire une bière d'une microbrasserie qui brasse de la bière à moins de 15 km du festival, croit la députée. C'est pas complètement fou. Voilà. Le parti reproche au gouvernement Legault de ne pas avoir inclus une telle disposition dans le projet de loi 12, devenu la loi visant principalement à promouvoir l'achat local et responsable par les organismes publics, à renforcer le régime d'intégrité des entreprises et accroître le pouvoir de l'autorité des marchés publics lors de son adoption au début du mois de juin. C'est bien le nom complet du projet de loi. Dans le projet de loi 12, on parle d'achat local, ça a créé plein d'espoir chez les gens, mais lorsqu'on s'est mis à le lire, finalement, on n'était pas dans les propositions de cette nature-là. Et si on va chercher la loi visant principalement à promouvoir l'achat québécois et responsable par l'organisation publique et à renforcer le régime et l'intégrité des entreprises et à accroître le pouvoir des autorités des marchés publics, si on fait cette recherche du projet de loi 12, on va mettre un petit zoom parce que c'est écrit petit. La majorité des voix, le projet a franchi cette majorité pour compte, ça le dit pas. Sanctions à promouvoir, continuer. Le fichier sera disponible sous peu, donc il n'est pas disponible pour l'instant sur le site de l'Assemblée nationale. Donc, éventuellement, on pourra lire le dossier complet présenté par Sonia Lebel, ministre responsable de l'administration gouvernement et présidente du gouvernement du Conseil du Trésor. Donc, on veut promouvoir l'achat local, mais il y a certains trucs qui ne sont n'ont pas été mis de l'avant, selon Émilie Lessard-Terrien. Ou en tout cas, on se donne l'impression qu'on va acheter local et tout ça, mais semble-t-il que ça ne sera pas tout à fait une imposition. En tout cas, on s'arrête une dernière fois. Au retour, la conclusion de l'émission de cette semaine, on va l'entendre Jordan avec Les Réveillés sur les ondes de Chiz 94.3 et de CFAC 88.3.
Elle court depuis 2000 ans pour moi, mais encore des aiguilles me traversent la peau, la mémoire de nos mères. Imprimée au bas de mon dos, elle soulève la poussière et les jours sans compter, les détours qui nous séparent du soleil, la mémoire de nos mères. Des oiseaux ils ont
tellement pris, sans rien demander, voler ce qui n'a pas de prix. Nos corps empruntés, nos larmes étouffées, jusqu'à nos mots et nos idées. Ils ont tellement pris, sans rien demander, voler ce qui n'a pas de prix. Nos corps empruntés, nos larmes étouffées, jusqu'à nos mots. Je vais crier pour les réveiller. Là, c'est moi qui cours pour arracher chacune des aiguilles qui me traversent la peau, les images dans ma tête, les chansons, la route et la lune, des milliers de bras qui me protègent. Et encore des histoires qui me ramènent à la mienne, si ferme encore les yeux. Je vais crier pour les réveiller. Ils ont tellement pris, sans rien demander, voler ce qui n'a pas de prix. Nos corps empruntés, nos larmes étouffées, jusqu'à nos mots et nos idées. Je veux crier pour les
je veux briller le feu, brûler, brûler, je veux pour mieux m'évaporer. On va briller, brûler, je veux briller le feu.
deuxième service. On termine avec des petites nouvelles un peu plus amusantes, on va dire ça comme ça, pour l'émission de cette semaine. Est sorti le palmarès de CA Québec des pires routes de la province. C'est pas gentil, mais en même temps, on pointe du doigt quand c'est problématique. Et pour une deuxième année consécutive, c'est la Capitale-Nationale, les Chaudières-Appalaches, qui s'illustre en étant dans le top 10 des pires routes. Et c'est, bon, Québec et Chaudières-Appalaches élargi, on va dire ça comme ça, pour le top 10 de cette année, puisque à Saint-Isidore, on y retrouve la route du Vieux-Moulin, à Sainte-Brigitte-de-Laval, l'avenue Sainte-Brigitte, Saint-Agapi, l'avenue Gaudreau, l'avenue Saint-Sacrement à Québec, l'avenue Taniata pour la deuxième année consécutive à Lévis, et le chemin Sainte-Foy du côté de Québec, parce que je me suis amusé à aller voir le palmarès de 2021, et effectivement, l'avenue Taniata était la neuvième pire route du Québec, égalité avec la route 257 à Scottstown, en Estrie. Et en dixième position, on avait la rue Évangeline à Québec. Bonne nouvelle, Sherbrooke et l'Estrie ne sont pas dans le top 10 de cette année, puisque Gatineau occupe la position 1, 4 et 10, et Saint-Jérôme occupe la position numéro 3. Donc, Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches étant les grands et grandes gagnantes cette année. Autres routes qui ont été signalées par les utilisateurs de la route selon le sondage de CA Québec pour évidemment l'an dernier. Est-ce que c'est ça? 2022. Voilà. C'était cela. Consulter le palmarès par région. Voilà, j'avais le tableau de 2021. En 2022, pour Chaudière-Appalaches, comme on le disait, Saint-Isidore, Saint-Agapi, Lévis. On retrouve également la route 216 à Sainte-Marguerite et le chemin de terre rouge à Saint-Antoine-de-Tilly. Mais si c'était un chemin de terre, littéralement, ça peut se justifier. En Estrie, trois villes pour la ville de Sherbrooke, la rue des Mérisiers, la rue Saint-Jacques et le chemin Georges-Vallière et la rue Water à Denville et la route 108 à Stornoway. Rue des Mérisiers, j'ose gager que c'est à Fleurimont, c'est-tu là? C'est une petite rue résidentielle, c'est pas à Fleurimont, pas en tout. Ah non, ça c'est la rue des Mérisiers à Lévis. Ha ha ha! Il y en a une dans le coin aussi, faut pas se tromper, c'est la rue des Mérisiers à Sherbrooke. Exactement, je connais mon Fleurimont, qu'on peut prendre via la rue des Tilleuls. En tout cas, on est rendu là. Et sinon, pour Chaudière-Appalaches en premier, allons-y quand même. Vieux-Moulin, voilà. Gaudreau, Taniata, on l'a dit. 216, Sainte-Marguerite, Terre. Non, je l'ai déjà fait. C'est Capitale-Nationale que je voulais. Voilà. Avenue Sainte-Brigitte, Sainte-Brigitte-de-Laval. Avenue Saint-Sacrement, chemin Sainte-Foy. Rue du Vignoble pour la ville de Québec. Et route de Saint-Achillé à Château-Richer, qui sont dans ces palmarès-là. Palmarès que vous pouvez retrouver, évidemment, sur le site de CA Québec, qui, bon, comme on le rappelle, s'amuse à juste pointer du doigt qui fait pas sa job, un petit peu comme ça. Et d'ailleurs, le maire, Gilles Loyer, a été interviewé pour le féliciter d'avoir l'avenue Taniata pour la deuxième année consécutive dans le top 10, chose qui n'arrive techniquement jamais, selon Nicolas Ryan de CA Québec, qui, selon le directeur des affaires publiques, que c'est pas supposé arriver qu'il y ait une route qui soit deux fois dans le top 10 et deux fois dans le même palmarès. Gilles Loyer affirme que les travaux sont en cours afin de corriger la situation. Ils ont mis des cônes oranges dans le coin de Taniata. Félicitations. La réfection, je déparle aujourd'hui, des conduites d'eau potable dans le secteur est la principale raison pourquoi le tout a été retardé, la préparation de l'avenue. Selon lui, ça demandait des travaux beaucoup plus importants financièrement, dit-il. La bonne nouvelle, c'est que c'est réglé. Ces travaux-là sont faits. On est en train de compléter les secteurs sur Taniata qui restaient à compléter. On espère disparaître dès l'an prochain de ce palmarès-là. En 2023, les interventions seront effectuées entre la station de service Irving et le viaduc de l'autoroute 20 sur l'avenue Taniata. C'est le 7e bilan annuel des Péroutes réalisées par CA Québec. Donc, c'est la 7e année qu'on y va de ce palmarès pour rappeler qu'il y a certains endroits qui sont un peu mal faits. Et sinon, pour revenir dans la région de l'Estrie, c'est une vidéo qui a circulé énormément sur les réseaux sociaux et pour cause, puisqu'un orignal a été aperçu en cavale dans le secteur du parc Jacques-Cartier mercredi dernier, mercredi cette semaine même. L'animal avait été aperçu mardi soir dans le secteur de la rue Montréal, donc en plein vieux Sherbrooke, vers 5h30. Un citoyen a souligné la présence de la bête au parc Jacques-Cartier un peu plus tard dans la même journée, parce que pour faire la rue Montréal à l'avenue Jacques, au parc Jacques-Cartier, c'est quand même un bon 10 minutes d'auto, là. 5-10 minutes avec du trafic. Fait qu'il en a fait quand même du millage, ce orignal-là. Et d'où arrive-t-il? La question est encore plus mystérieuse. S'il était dans le coin de Montréal, ça veut dire qu'il arrivait peut-être de Brompton, Saint-Denis-Brompton, mais il était écarté pas mal. Ils ont finalement réussi à localiser l'orignal vers 8h30, près du plancher de danse, à l'entrée du parc où Antoine Naman, l'édifice Antoine Naman. L'orignal a été endormi et a été déplacé dans son habitat naturel par la suite. Aucun incident n'a été rapporté relativement à la présence en ville, donc il n'y a pas d'accident de voiture nécessairement à signaler. La vidéo en question, bon, on voit l'orignal qui avait... On pensait commencer à être endormi, mais il s'est relevé. Il a tenté, bon, de continuer son chemin en se dirigeant, voilà, vers le plancher de danse, puisqu'il était couché dans l'herbe où a lieu normalement le festival du Lac des Nations. Promotuelle Assurance, je veux pas me tromper dans le nom complet de l'événement. Ça m'a fait toujours rire depuis ce temps-là. Donc, c'est le nom complet. C'est le nom complet. Donc, un orignal qui s'est invité à la fête, mais quelques semaines trop tôt. En même temps, si ça avait été pendant le festival, ça aurait été encore plus problématique. Bref. Donc, tout est bien qui finit bien pour cet orignal-là du côté de Sherbrooke. Et sinon, nouvelle dans les faits divers complètement dans la section crimes et délits. Rien de moins puisqu'un individu s'est présenté au SO de la rue du Nant à Sherbrooke. Le individu de race blanche qui mesurait 6 pieds est entré une première fois dans le dépanneur Esso de la rue du Nant avant de demander pour se rendre aux toilettes. Un voleur qui est qualifié d'hésitant qui est recherché présentement par le service de police de la ville de Sherbrooke. C'était en date de il y a deux jours, le 8. Après avoir prétendu se rendre aux toilettes, il ne s'est pas rendu. Il est retourné au comptoir où il a murmuré que c'était un hold-up, tout en s'excusant de la chose. Mais quelques secondes plus tard, il a dit à l'employé qu'il ne pouvait pas lui faire ça et il est sorti du commerce. Toujours selon le porte-parole du service de police de la ville de Sherbrooke, Martin Carrier. Quelques minutes plus tard, il est retourné dans le SO de la rue du Nant pour finalement demander le contenu du tiroir caisse en dissimulant une arme. Y avait-il une arme ou non? L'histoire ne le dit pas. Quelques minutes plus tard, bon, voilà, l'homme aux cheveux roux qui portait des lunettes et qui avait une coupure sous l'œil est retourné sur place. Le suspect a pris la fuite par la suite à pied par la rue Kingston. Toujours selon le porte-parole du SPS, le suspect portait un manteau Harley-Davidson, une casquette rouge, des souliers blancs, de même qu'un jeans troué. Et bon, toute information concernant ce suspect peuvent être communiquées au service de police ou à Infocrime 1-800-711-1800 pour si vous avez des détails concernant un roux coupé sous l'œil qui est hésitant dans la vie et qui ne pouvait pas faire un crime, mais que finalement il a dû le faire. Je veux pas rire de lui, mais c'est un peu cute quand même. C'est hésitant comme démarche. Et c'est là-dessus que l'émission de cette semaine se termine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute en ce vendredi 10 juin. Je souligne malgré tout le 11 juin. Parce que ça fait 17 ans cette année que mon père est décédé. Donc 11 juin, demain, samedi. Salutations à Luc. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du Deuxième Service, ici même sur les ondes de Chiz 94.3 et de CFAC 88.3.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Chérie, j'arrive. C'est toi qui arrives en ville et qui découvre à quel point il y a du beau et du bon talent artistique à Québec.
En semaine, dès 16h, à Chiz 94.3.
Le Beatnik Show, la meilleure playlist de rap au Québec. Des talents locaux, des nouveautés, la crème du hip-hop québécois. Avec votre MC, Nick Leclerc.
Lundi, 18h30.
Au 94.3. Chiz.
Oh yeah, Chiz.
Pour le meilleur beat du Beatnik Show, man. T'as le dit, c'est malade.
Moi, c'est Robert, j'aime vraiment Linux pis des kiwis des nerds.
Eh oui, Robert, pour citer un grand homme, l'émission la plus fruitée de la Norderie vous annonce son grand retour. Soyez des nôtres le dimanche midi pour la contre-attaque des kiwis. Sur les ondes de Chiz 94.3.